Bonjour tout le monde, ça va bien ce soir? Vous
Bonjour.
êtes contents?
Bonsoir.
Bien, vous rendez compte, ça fait déjà 15 jours qu'on est tous ensemble ici dans le Lot et on est bien, il fait beau, il fait chaud, la vie coule comme une chanson, comme je disais l'autre jour. Aujourd'hui, croire, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de comprendre. Il y a eu un temps où on disait la foi du charbonnier, les gens y croyaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils croyaient. C'est fini ça maintenant. On a le devoir de comprendre. Et ça n'est pas impossible. Ça n'est pas de l'orgueil de chercher à comprendre. C'est normal. Et Dieu veut que notre connaissance augmente. Mais il veut toujours que notre amour augmente aussi en même temps. Il ne faut pas que la connaissance dépasse notre amour. Et je vous en ai parlé dimanche. Je veux encore m'excuser auprès de ceux qui ont mal entendu. C'est vrai que c'est pas très très bien enregistré. C'était, vous savez, on est encore un peu dans les cartons. Mais là, je pense que ce soir, l'enregistrement va être bon. On va prier. Merci Jésus de nous bénir ce soir autour de ta parole et de nous aider à bien saisir la pensée de l'Esprit pour notre petite communauté et aussi pour tous ceux qui viennent pour écouter ta parole. Merci Jésus. Amen. Alors vous avez pu voir en arrivant sur Révélation Bible, en première page, la photo de notre très cher ami et frère Nicolas Savadogo, qui a été élu maire de Boussé. Ça, c'est formidable. C'est formidable, surtout quand on connaît l'histoire. Alors Nicolas Savadogo, c'est l'homme qui me prépare toutes mes réunions là-bas en Afrique francophone. C'est un homme de foi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'ai connu donc il y a 13 ans. Depuis le temps que je dis 13 ans, il faudrait que je fasse le calcul, ça fait peut-être plus maintenant, ça doit faire 16 ans. Hein. Et on a fait un boulot formidable tous les deux, et on continue. Là, je vais bientôt y aller. Et puis, il faut savoir que quand il s'est converti, ce garçon, son père, qui était le chef du village, le chef coutumier, il l'a banni du village, il était chassé du village. Et donc il mangeait dans les poubelles des casernes à Ouagadougou, il avait sa culotte, parce qu'il avait que ça, et puis un t-shirt qui dépassait un peu dans les, comment on appelle ça, dans les caniveaux, quoi. Enfin, c'est une horreur, quoi. Enfin, il était vraiment malheureux et il était recueilli par un missionnaire qui me l'a présenté, et puis on est devenus des amis, et puis maintenant, ben voilà, c'est à la vie et à la mort. Et un jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des années de ça, on lui a offert, parce qu'il faisait beaucoup de trajets pour préparer mes réunions un peu partout dans le Burkina, et comme il n'avait pas de voiture, la communauté, on a décidé de lui offrir une moto. Alors on lui a offert une moto, et lui n'en revenait pas, parce que Dieu lui avait dit des années avant qu'il allait recevoir une Yamaha. Et il y avait un pasteur qui avait vu qu'il avait besoin d'une moto, il voulait l'offrir une moto, mais moins bien. Et il a dit non, 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 merci, je ne veux pas. Et parce qu'il dit non, Dieu m'a dit une Yamaha, j'aurai une Yamaha. Et quand je suis arrivé là-bas, de la part de la communauté, on lui avait offert une Yamaha. Alors ça nous a encore liés davantage. D'ailleurs, il l'a toujours depuis, il s'est acheté d'autres motos. Des voitures, il a des voitures magnifiques. Enfin, il a pas des voitures, il a une voiture pour sa femme, une voiture pour lui. Mais il a trois enfants, enfin, il a beaucoup progressé. Et puis, c'est vraiment un homme de foi. Et là, quand son père a su qu'un blanc lui avait fait cadeau d'une Yamaha, il a dit alors, c'est que mon fils doit avoir quelques valeurs quand même. Alors, il a accepté que son fils revienne dans le village. Et je suis allé avec et je suis devenu ami avec le papa, avec la maman, et maintenant ils sont partis tous les deux dans la gloire. Et puis Nicolas a fait beaucoup, beaucoup pour son village. On l'a aidé, et avec comment on appelle, l'association C'est Faisable, on a souvent donné, 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 donné. Et ils ont monté là-bas un château d'eau, maintenant il y a l'eau courante. Dans les cases, il y a l'électricité dans toutes les cases. Enfin, c'est Las Vegas. Pas vraiment. Mais disons qu'ils ont. Voilà, il s'est bien occupé de sa commune, de son village. Le village, c'est. Enfin, la commune, c'est plusieurs petits villages qui sont très étendus dans ce désert, c'est un désert. Là, il y a eu des élections pour le maire et c'est lui qui a été élu maire. Vous voyez un petit peu le chemin. C'est magnifique, hein? Moi, je dis que ça, c'est vraiment. C'est une bénédiction de Dieu pour lui, mais c'est aussi une bénédiction de Dieu pour toute cette région. Parce que c'est un homme qui a du cœur, c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui est honnête. On n'a jamais eu un problème d'un centime avec lui. Je rends témoignage que c'est vraiment un homme de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire. Alors, donc, quand il a été élu maire. On a décidé, la communauté, d'offrir une moto à un de ses principaux collaborateurs qui n'a rien, qui n'avait pas de, qui avait rien. Donc on l'a offert. Et puis ce matin, il m'a envoyé les photos. Donc c'est une des photos qu'il m'a envoyées qui se trouve en première page de Révélation Bible. Alors réjouissez-vous, vous qui soutenez financièrement l'œuvre de Dieu avec nous, eh bien vous serez bénis parce que la Bible dit que celui qui sème, il récolte. Voilà, donc nous sommes bénis par le fait de cette loi divine. Dimanche passé, je vous disais que rien ne peut faire changer les gens. Vous croyez toujours ça? Vous y avez réfléchi? Seigneur, je te prie que tu nous aides vraiment à comprendre ces choses-là. Il n'y a que l'amour, c'est-à-dire Dieu, qui peut faire changer les gens, ou alors le diable, le mal, qui puisse faire changer les gens. Quand François Hollande parlait lors de sa campagne électorale en disant le changement c'est pour maintenant, j'ai su tout de suite quelle sorte de personne c'était. En fait, savez-vous que le mot personne, personnalité, ça vient d'un vieux mot de la Rome antique, le mot latin persona, qui désignait les masques du théâtre. Ils se mettaient des masques à l'époque. Le théâtre, c'est un jeu, une personne, quelqu'un prend la personnalité de quelqu'un d'autre. En fait, c'est un jeu de multiplicité et de mensonges, on peut le dire. Hein, Olivier, toi qui as fait du théâtre, tu es d'accord que c'est, on est plus soi-même, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Tout le monde veut le changement et c'est pourquoi François Hollande a dit ça, le changement, c'est pour maintenant. Le changement, c'est maintenant. Parce que ça répond à l'aspiration des gens. Les gens veulent du changement, déjà dans leur propre vie à eux, et puis aussi quand on voit ce qui se passe. Et alors on a vu dans la réalité que, en fait, peu de choses ont changé, et ce qui a changé, ben, ce n'est pas forcément un progrès. Alors pourquoi? Eh bien, voyons comment tout cela fonctionne déjà à notre échelle. C'est important. Vous savez que je prêche l'évangile de Jésus-Christ, mais quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ, on prêche la sagesse de Jésus-Christ. Et prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas toujours prendre l'histoire de Bartimée ou prendre l'histoire de Moïse qui a dit ci ou Gédéon qui a fait ça. Non, c'est aussi Jésus nous a appris à comment vivre, comment gérer sa vie. On trouve tout ça dans la Bible. Et à notre échelle, nous avons tous une personnalité. C'est ce que je vois, par exemple, quand je vois votre personnalité. Hein? C'est ce qui est apparent, c'est votre apparence, votre masque, si vous voulez. Hein? Et nous avons tous une individualité. Ça, c'est ce que nous sommes réellement. C'est notre esprit, notre individualité. En fait, avec un autre vocabulaire, on peut dire, on a une nature inférieure, c'est la personnalité. Et puis, on a une nature supérieure, c'est l'individualité. Ou alors, on peut dire, on a un conscient, ce que la Bible appelle la chair. Avec tout ce que ça comporte, la chair, c'est pas seulement la viande, c'est pas seulement notre corps, mais c'est toutes nos pulsions, voilà. Et puis, nous avons un inconscient, c'est-à-dire nous ne sommes pas conscients de l'esprit que nous sommes. Nous sommes un esprit. Nous sommes un esprit éternel. Mais consciemment, franchement, personne n'est conscient de la présence d'un esprit en nous. On pense, voilà, c'est mon intelligence, c'est mes émotions, c'est mon âme. Tout ça, c'est encore la chair. Mais nous avons un esprit, c'est cet esprit qui fait que nous avons un être, que nous sommes un être, que nous sommes une âme. Le mot être, ça veut dire âme. Et c'est le fait qu'on a cet esprit dont nous ne sommes pas vraiment conscients qui fait que nous sommes une âme. Nous sommes tous des gens conscients et notre conscience, elle est tournée vers le monde du dehors. Du dehors. Nous regardons ce qui nous entoure et nous voudrions que bien des choses changent parce que nous sommes conscients que bon, ben, ça va pas très bien. Hein? En la bouche, on dit tout va très bien, madame la marquise. C'est pas vrai, on sait bien que ça va. Seulement, voilà, la France, par exemple, c'est un pays qui, majoritairement, a perdu ses valeurs chrétiennes. Alors, les transformations que nous constatons ne sont que le reflet du monde intérieur, c'est-à-dire de ce que sont les Français en général, de ce que c'est que leur personnalité. C'est le reflet, c'est l'image qui sort, c'est ça, ayant perdu les valeurs chrétiennes. Et le problème en plus, c'est que peu de gens ont conscience de leur monde intérieur. Ils vivent simplement, comme on dit, sont des gens superficiels et légers. Quand ils sentent le besoin de comprendre ce qui se passe en eux, parce qu'ils se sentent un peu dépassés, ils n'ont pas le réflexe d'aller voir un homme de Dieu, ils vont voir un psychanalyste. J'ai rien contre les psychanalystes, j'ai des psychanalystes qui sont de mes amis, de mes très chers amis d'ailleurs. Mais voilà. Alors bon, la psychanalyse a ouvert une porte sur la connaissance d'une réalité, c'est celle de l'existence de nos pulsions inconscientes qui font des intrusions dans la vie consciente. C'est-à-dire, en langage chrétien, parce que ça c'est le langage des psys, mais le langage chrétien, c'est que notre esprit fait des intrusions dans notre conscience. Alors, les gens qui vont chez les psychanalystes sont surpris de ce qu'ils apprennent sur eux-mêmes, parce que c'est une science, ils ont appris. Mais toutes ces choses-là, les gens qui vont voir les psychanalystes, ils pourraient l'apprendre simplement en lisant la Bible. Mais non, comme le pays est déchristianisé, les gens ne connaissent pas la Bible, ou alors ils connaissent la Bible, mais le côté religieux de la Bible, avec ses lois, avec ses histoires, avec ses tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, avec les histoires de guerre, les histoires d'amour, les voilà, gna 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 gna. Ils ont une espèce d'idée de la Bible. C'est religieux, c'est un corps charnel. C'est un corps charnel, c'est la chair, c'est superficiel, ça va pas en profondeur. Alors, les gens, en grande majorité, sont étonnés par leurs rêveries, par leurs émotions, par leurs variations d'humeur imprévisibles, et ils sont étonnés par leurs idées fixes qui marquent leur vie. Ils en ont des fois même honte. Ils disent, mais comment c'est possible? C'est moi qui pense comme ça, c'est moi qui suis comme ça. Et alors ils finissent par se décourager. Il n'y a aucun bienfait dans le découragement. Raphaël, rappelez-vous, il disait, le diable était dans un marché et il avait une boutique. Et ils vendaient toutes sortes d'armes pour tuer les chrétiens. Et puis il y a quelqu'un qui a passé et puis a dit, c'est quoi cette arme-là? Ah non, celle-là, je la vends pas. Il dit, ah bon, pourquoi? Ah, c'est l'arme la plus efficace. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? C'est le découragement. C'est une horreur, le découragement. Et beaucoup finissent par se décourager. Ils ont un sentiment d'impuissance. Parce que, voilà, c'est ça. Et on ne peut pas changer. On ne peut pas changer avec la psychanalyse, on peut s'améliorer un peu. Et puis je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi on s'améliore. C'est parce que le psychanalyste les rassure, il rassure les gens. Vous n'êtes pas complètement responsable au sujet de ce qui se tapit en vous, de votre inconscient, de vos pensées obsessionnelles. C'est pas vous qui êtes vraiment responsable, ça vient de vos parents. Voilà. Et hop! On les déculpabilise et ça va un peu mieux pendant quelques instants. Ça va un peu mieux momentanément. C'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Non. Vous avez honte de vos pulsions. Vous y êtes pour rien. C'est pas vous. Vous n'êtes pas maître de vous-même. Mais vous y êtes pour rien. C'est pas vous. Mais non. Ou en tout cas, c'est pas. Vous y êtes pas pour grand-chose. Bien sûr, il y a une part de vous, mais au fond, c'est dans vos gènes. Hein, ça vient de vos ancêtres, vas-y, on tape dessus. Alors, les gens se manifestent finalement sans bride aucune, et ils ne sont pas responsables, donc vogue la galère, quoi. Alors, ils veulent accaparer l'attention des autres, ils veulent développer, ils se mettent à développer un orgueil démesuré, et ils rejettent Dieu, ou pire. Ils rivalisent avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. C'est encore pire que de nier l'existence de Dieu. Ils deviennent cruels. Ils imaginent qu'ils ont le pouvoir de faire disparaître tout ce qui existe et qui n'est pas soumis à eux, à leur loi, mais ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. J'écoutais l'autre jour un jeune arabe qui prêche l'évangile de Jésus-Christ et il disait, mais j'ai pas peur de dénoncer l'islam comme ça, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas me tuer. Un chrétien, il est déjà mort. Ils ne peuvent pas me tuer. Un chrétien, il est déjà mort au monde. Et même s'il tue mon corps, mais c'est la seule personne qui est à craindre, c'est celui qui peut tuer la personne que je suis, l'individualité que je suis. Et ça, ils ne peuvent pas toucher. Ça, ils ne peuvent pas toucher. Et alors, ça nous donne une génération infantile, une bande de capricieux, instables, infidèles, fanfarons, comme on voit partout. C'est effrayant, c'est effarant. Alors, je trouve dommage que la psychanalyse ne parle pas beaucoup de l'autre côté du pouvoir de l'inconscient, parce qu'ils ont raison, il y a un inconscient, et c'est vrai qu'il a un pouvoir qui peut être négatif, mais il y en a aussi un qui a il y a aussi un pouvoir positif. Alors, c'est dommage que le psychanalyse n'en parle pas assez. Notre inconscient peut avoir des manifestations bénéfiques, lumineuses, que nous laissons s'exprimer ou que nous refoulons selon les circonstances, voilà. Les choses positives de notre inconscient, de notre esprit, c'est-à-dire de ce dont nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas conscients, mais elles sont là, eh bien, ces choses-là peuvent surgir dans notre conscient. Ça va être, par exemple, la générosité, tout d'un coup, voilà, on sent une pulsion de générosité, un élan irrésistible d'espoir, une aspiration vers l'harmonie, à l'harmonie, on désire sincèrement l'harmonie, on veut l'harmonie, on a des joies subites, on ne pourrait même pas expliquer pourquoi, mais donc on se sent bien, voilà, c'est des intrusions de l'esprit dans notre conscient, des jaillissements de lumière créatrice, tout à coup, voilà, vous vous sentez très inventif, vous voyez comment vous allez pouvoir débrouiller une situation, l'intuition. Que nous faisons partie d'un tout, ça aussi, ça vient de, c'est des choses qui viennent du plus profond de nous, de notre, comme le sentiment d'immortalité aussi, c'est quelque chose qui est dans notre esprit, c'est pas dans notre âme. Vous avez des gens qui disent, moi je crois pas qu'après la vie, il y a quelque chose, mais c'est parce qu'ils réfléchissent avec leur âme. Et c'est vrai que, voilà, c'est bien, ils ont raison, mais l'esprit dit autre chose. Et Dieu dit qu'il a placé en nous la pensée de l'éternité. Et si quelqu'un veut arrêter d'être superficiel, il est obligé de reconnaître qu'il a la pensée de l'éternité. On a tout ça en nous. Alors il y en a qui mentent par ignorance, mais il y en a qui mentent simplement à cause de la superficialité. Alors les choses viennent, ces choses-là, elles viennent parfois effleurer notre conscience, mais notre conscient ne les retient généralement pas. Parce qu'on se dit, bon, c'est des idées qui me viennent comme ça, mais voilà, c'est. Alors, il faut savoir que notre conscience, c'est le miroir, ce n'est que le miroir du ciel et de l'enfer. Voilà ce que c'est notre conscience. Et notre conscience n'a pas le pouvoir de créer ou de façonner ni le paradis ni l'enfer. Vous ne pouvez pas façonner avec votre conscience votre paradis ou votre enfer, ni ici-bas, ni pour après. C'est pas avec votre chair, avec votre conscience, avec votre intelligence. Si intelligent soyez-vous, vous ne pouvez pas. Il n'a pas le pouvoir de faire ça. C'est notre inconscient, ce dont nous n'avons pas conscience en nous, notre esprit qui a ce pouvoir. Alors vous voyez donc que nous avons deux natures et c'est notre façon de vivre ce que nous croyons, ce que nous acceptons pour vrai, qui nous met en contact avec l'une ou l'autre, le positif ou le négatif. C'est ce qui provoque des expériences subjectives de générosité, de beauté, d'équilibre ou de désordre, de violence, de cruauté, etc., etc. C'est notre façon de vivre, ce que nous croyons, ce que nous acceptons pour vrai. Parce que notre personnalité, notre être inférieur, c'est-à-dire notre âme, elle est inférieure par rapport à quoi? Par rapport à l'esprit que nous sommes, par rapport à Dieu, par rapport à tout. Notre âme, c'est vraiment, c'est une folle. C'est une folle. Les vierges folles sont des gens religieux qui aiment Dieu, mais qui sont dingos parce qu'ils sont charnels. C'est ceux qui pensent qu'ils sont en communion avec Dieu parce qu'ils sentent. la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu avec nos sens, avec notre chair. C'est pas bon, c'est charnel encore, ça n'a rien à voir, ça n'est pas spirituel. Alors notre personnalité, c'est-à-dire notre âme, notre être conscient, il est le gardien, elle est le gardien de ce qui est à l'intérieur de notre, il est le gardien de notre esprit, de notre inconscient, de notre individualité. Nous avons des sens qui nous permettent de voir, d'entendre, de toucher, de sentir tout ça. Et on juge, voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis alors, si on est un imbécile, on ne change jamais d'avis, et puis on reste toujours bloqué sur la même idée, même si on nous prouve par A plus B que c'est vrai. Eh ben, on ne bouge pas, et puis voilà. Si notre être inférieur accepte pour vrai une chose fausse, eh bien, cette chose fausse, elle va entrer dans votre esprit, qui est une terre fertile, qui est comme un jardin. Et ça produit des faux événements dans votre existence, des choses fausses dans votre existence, et que vous allez prendre pour des choses vraies. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Si nous acceptons consciemment quelque chose de vrai, alors notre esprit va faire fructifier cela, et nos expériences seront noble, belle, et ça nous rendra heureux, et ça rendra les autres heureux aussi. Et ça glorifiera Dieu. Notre esprit, c'est notre jardin d'Éden intérieur. Il produit ce que nous y mettons consciemment. C'est pourquoi nous avons besoin de convertir notre âme. C'est notre âme qui doit être sauvée, ce n'est pas notre esprit. Il est le sauveur de nos âmes. Nous sommes en fait comme Adam et Ève, gardiens de jardin. Et savez-vous que Adam et Ève avaient reçu l'ordre de garder le jardin parce qu'il y avait quelque chose à l'extérieur du jardin qui n'était pas bon. Il fallait garder le jardin. Alors la personnalité, c'est la nature inférieure. Vous allez dire, mais Michel, tu te répètes, tu nous gaves, tu gagatises, tu répètes. Oui, je répète parce que c'est des choses, ça a besoin de rentrer. Et si je ne répète pas, ça ne rentre pas. La personnalité, c'est la nature inférieure, c'est notre âme, c'est votre être conscient, c'est votre corps vivant avec ses sens. Tout cela vit à cause de l'esprit qui habite votre corps. Mais votre esprit, c'est votre être supérieur, dont vous n'êtes pas vraiment conscient, mais votre esprit a un pouvoir, il peut faire des intrusions dans votre âme par le moyen, souvent, des intuitions. Mais on n'écoute pas cette petite voix, on n'écoute pas ça. Il y a trop de bruit dans ce monde. Votre esprit peut être en contact avec le Saint-Esprit, avec des anges de Dieu, mais aussi avec des démons et avec les esprits des morts. Surtout pendant notre temps, là nous sommes sous le quatrième sceau, le séjour des morts et la mort parcourent la terre. Et beaucoup de gens rentrent en contact avec des esprits de mort et voilà pourquoi on voit tant d'horreurs. C'est la mort qui parcourt la terre, elle a reçu le pouvoir de par Dieu de tuer, c'est un quart de la population humaine. C'est terrible. La personnalité, c'est ce masque d'apparence de jeu sur la terre. Votre individualité, au contraire, c'est votre essence même, sans quoi vous ne pourriez pas être sur terre. Tout le problème réside dans la nature de votre esprit qui est éternel. Alors là, je touche quelque chose de tabou. Votre essence, c'est ce qui était avant votre naissance. C'était soit un esprit déjà rebelle à Dieu, ou alors un esprit soumis en amour à Dieu. Si votre esprit est un bon esprit, vous êtes un enfant de Dieu de tout temps. Mais vous êtes un esprit qui a été perdu sur terre. Et puis vous devez retrouver le chemin du paradis et retourner auprès du Père. Et vous êtes un esprit perdu qui doit, et cet esprit perdu doit vous aider, vous, c'est-à-dire votre âme, votre être, à être sauvé, à retrouver le Père éternel. Et votre esprit rentre en contact avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas votre âme qui rentre en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui rentre en contact avec votre esprit qui, lui, fait des intrusions dans votre âme et vous êtes convaincu du péché, de justice et de jugement. Votre âme, tout d'un coup, est consciente que vous êtes dans le péché. Voyez? Alors, c'est pas simple, parce que votre esprit, même s'il est un esprit de Dieu, un bon esprit, il peut être mis en contact avec des mauvais esprits. Eh oui. Et ces mauvais esprits peuvent vous influencer, et une fois que votre esprit est influencé, votre âme, l'être que vous êtes, elle est dans le trouble, elle est dans la confusion. Même en tant que chrétien, ça peut vous arriver, vous pouvez être un chrétien, et parce que vous avez été mis en contact avec un démon, un esprit de mort, alors vous êtes dans la confusion, vous êtes dans la... Mais ça ne vient pas innocemment. Vous allez me dire, mais Dieu nous protège. Oui, Dieu protège les siens, mais attendez que je finisse de ce que j'ai à vous dire. Il y a des possibilités pour des démons et pour des esprits de mort de rentrer en contact avec des chrétiens et de les troubler, de les tourmenter, de les mettre dans la confusion. Je vais vous expliquer, écoutez-moi jusqu'au bout. Il suffit que votre âme, qui est le gardien du jardin intérieur de votre esprit, laisse entrer des idées fausses ou impures dans votre esprit, ça souille votre esprit et ça va produire de la souillure. Ça produit toujours selon la nature de ce qui était semé en vous. Alors ça ne va pas forcément être des choses sexuelles, non, ça peut être des choses très religieuses. En général, des choses religieuses qui reconduisent les personnes à sous l'esclavage de la loi, ou à l'infidélité à l'église établie, ou à l'idolâtrie, et des choses comme ça. Des esprits religieux. Les esprits religieux sont les plus méchants de l'univers. Les plus méchants, les plus mauvais. Or, les deux natures qui sont les nôtres se subdivisent elles-mêmes en trois catégories de manifestations. Vous voyez que ce n'est pas simple, mais pourquoi vous croyez que je vais vous dire des choses simples? Je n'ai jamais prétendu que j'allais vous dire des choses simples. Alors certains disent, oui, Michel, tu es un intellectuel. Ben, si vous n'aimez pas l'intelligence, vous n'aimez pas Dieu, parce que l'intelligence est un don de Dieu. Alors aimez les choses de Dieu, même si elles sont un peu compliquées. Arrêtez de vous plaindre parce que vous écoutez toujours les mêmes choses dans votre église. Écoutez des choses un peu différentes et réfléchissez-y. C'est ça ce que signifie la méditation, c'est la réflexion. Alors vos deux natures qui sont les vôtres se subdivisent toutes les deux en trois catégories de manifestations. La pensée, l'intellect donc, les sentiments, le cœur et l'action, c'est-à-dire la volonté. Dans la gamme supérieure, l'intelligence est supérieure, c'est le siège des pensées justes, qui éclaire la route à l'âme, à l'être que vous êtes, et puis ça va quand on est sous cette influence-là. Quand un chrétien est soumis de cœur à Dieu et à son Église rétablie âge après âge, parce que les chrétiens du 15e siècle, s'ils venaient vivre aujourd'hui, ils seraient complètement scandalisés de voir comment on entrevoit les choses de la vie chrétienne, parce qu'eux, ils ont eu leur révélation pour leur temps, mais ceux qui ont été fidèles dans leur temps à ce que Dieu rétablissait dans leur temps, ceux-là seront aussi bien sauvés que nous. Mais nous, si nous restons dans les choses du 15e siècle, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, parce que Dieu révèle encore, Dieu parle encore aujourd'hui, et il veut que nous soyons au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Pardon, de ce qu'il révèle aujourd'hui. C'est clair? Donc quand un chrétien est soumis de cœur à Dieu et à son Église rétablie âge après âge, ce chrétien-là a des sentiments d'amour, il veut partager, des sentiments d'abnégation, des sentiments de sacrifice pour les autres, d'adoration pour le seul vrai Dieu, de louange pour le Seigneur, son Rédempteur, et il a des actions qui libèrent, qui crée du bon, du noble, du digne de louange. Et c'est ainsi qu'un disciple accompli travaille en communion avec l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et la personnalité du disciple devient quelqu'un de bon, et il a reçu un changement. C'est une nouvelle naissance, et il continue à grandir dans ce domaine-là. Et au commencement, il y a un commencement, il naît de nouveau, mais après il progresse encore, il devient adulte spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il ne suffit pas d'avoir levé sa main dans une réunion puis s'être fait tremper au nom de Jésus ou au nom de la Sainte Trinité dans un baptistère. Non, il faut persévérer jusqu'au bout. Il y a une circulation entre la nature inférieure et la nature supérieure du chrétien, et cette circulation lui donne d'être en possession de toutes ces facultés, toutes les facultés que Dieu vous a données. Un, ça va être la musique, l'autre, ça va être d'écrire, l'autre, ça va être de faire de l'humanitaire, ou de prêcher, ou de guérir les malades, enfin, bon, je sais pas, tout cela, c'est vos facultés, c'est des facultés que le Saint-Esprit met en valeur. Une fois qu'on est bien aligné avec lui, et il est une bonne personne, Dieu le bénit, Dieu répond à ses prières, Dieu le soutient dans les épreuves. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu le bénit et répond à ses prières, qu'il n'a pas d'épreuves. On a des épreuves, il y en a qui durent longtemps, puis il y en a qui sont plus courtes. Alors on ne peut pas dire que parce qu'une personne souffre, elle n'est pas bénie. Ça, c'est une idiotie charnelle. Et puis Dieu le délivre et l'utilise pour accomplir des miracles, pour faire de bonnes choses pour les gens. Voilà. Vous voyez, toutes les expériences que nous faisons sur Terre, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, elles ont pour but unique de nous mettre en relation avec notre moi divin, c'est-à-dire l'esprit, notre esprit. Nous sommes un esprit. Et tout ce qui nous arrive, c'est dans le but de nous mettre en contact avec notre esprit, c'est-à-dire que notre âme prenne conscience de la présence de notre esprit qui, lui, est en contact avec le Saint-Esprit. C'est quand ces deux parties, l'inférieur, c'est-à-dire l'âme, et la supérieure, c'est-à-dire votre esprit, parviennent à fusionner, que ça devient le ciel sur la terre, enfin, du moins pour vous et pour votre famille, pour créer l'abondance de vie, pour créer avec le contentement. Vous savez ça? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans 1 Timothée 6, 6, et c'est quelque chose que les chrétiens ont de la peine à comprendre très souvent. 1 Timothée 6, 6, dans cette version archéo, c'est écrit: la piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. C'est écrit comme ça là, mais dans vos Bibles plus anciennes, c'est écrit: la piété est une grande source de gain avec le contentement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont beaucoup de gains, mais ils n'ont pas le contentement. Celui qui a la piété, il peut avoir beaucoup de biens. Dieu remplit sa maison de biens et en plus il a le contentement. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est magnifique. Alors, tout ça pour dire que notre christianisme n'est pas passif. Nous avons une part là-dedans. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, le salut de notre âme, et au quotidien. C'est au quotidien. Nous ne pouvons pas entrer en communion avec Dieu, avec notre âme, parce que notre âme, c'est la chair. Je vais vous dire quelque chose qui est bizarre. Même nos chants, on a des très bons musiciens chez nous. Dans 1 Corinthiens 14, 15, il est dit: je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Ça n'est pas interdit de chanter avec notre intelligence si ce qu'on chante est louable, positif, agréable à Dieu et tout. Mais nous pouvons chanter par l'esprit, ce qui est encore mieux. Quand vous êtes dans la louange ou n'importe, quand vous êtes au volant de votre voiture et vous pouvez chanter en langue, vous chantez en esprit, c'est magnifique. Puis vous pouvez chanter des petits chants comme on chante avec la guitare, avec Jésus, la vie est belle et tout. C'est très beau. Ou à toi la gloire et tous ces chants qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ça parle à notre cœur, ça parle à notre intelligence, ça parle à notre âme. Et ça peut élever notre âme. Mais quand on chante par l'esprit, c'est encore un autre niveau. Jésus chantait avec ses disciples, n'est-ce pas? C'était pas juste pour créer une ambiance. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce que c'est utile. Hein, vous avez. C'est comme ça. C'est par notre esprit que nous entrons en communion avec le Saint-Esprit. Mais notre âme doit le vouloir. Si elle ne le veut pas, il n'y a rien qui se passe. C'est elle le gardien. La gardienne, on devrait dire. Elle doit s'efforcer de chercher avec diligence dans les Écritures, dans la méditation, dans la contemplation, dans l'écoute des ministères confirmés, pas de n'importe quel gueulu qui se présente et puis qui vous dit qu'il est prophète. Là, il y a des choses qui se passent en Afrique, mais c'est épouvantable avec les prophètes. Épouvantable. Si vous allez sur YouTube, vous allez être épouvanté de voir ce qui se passe. C'est effrayant. Donc, si vous êtes fidèle dans la lecture des Écritures, dans la méditation, dans la contemplation, dans l'écoute des messages apportés par les véritables serviteurs de Dieu confirmés, alors vous serez informé et votre âme choisira ce qu'elle veut faire entrer dans votre esprit ou pas. Elle est la gardienne de votre jardin intérieur. C'est pourquoi une âme exercée, l'autre jour je vous parlais d'exercice, une âme exercée ne suivra pas un prophète de pacotille. C'est pour ça qu'il dit, les élus ne suivront pas un faux prophète. Il arrive un moment où l'élu dit, oh, oh, ça va plus, j'arrête. Ça va plus, j'arrête. Pourquoi? Parce que, vous savez, on reconnaît un homme à ce qu'il fait, pas à ce qu'il dit. On reconnaît Dieu à son prophète. Et on reconnaît le prophète à ce qu'il fait. Un prophète qui vous présente un Dieu comme, excusez-moi, un Dieu méchant, cruel, qui fait sauter des bombes dans les aéroports, pour moi, c'est un faux Dieu. Et le prophète est un faux prophète. Ça, c'est un extrême. Et vous avez des tas d'autres faux prophètes qui sont très nuisibles aussi. On reconnaît à leurs actes et à ce qu'ils disent de celui qu'ils appellent Dieu. On peut les reconnaître et on peut être séduit sentimentalement. Ah, c'est un gentil frère. Ah, c'est mon fils que j'aime. Ah, c'est mon mari. Ah, c'est mon frère. Ah, je l'aime et tout. Mais il arrive un moment, on dit, bah, attends, elles sont où ces prophéties accomplies? Elles sont où les... Il y a quoi? C'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas juste. Puis ça nous mène où? Ça fait quoi? C'est pourquoi une âme exercée ne peut pas suivre un prophète de pacotille, du moins pas longtemps. Moi, j'ai été séduit pendant un temps par un bonhomme qui avait un réel don, mais en fait, c'était un faux. Et quand je m'en suis rendu compte, on s'est taillé hein, avec la Michou, pas fait longtemps. Hein. On peut être séduit, mais on ne peut pas tomber dedans. Par contre, si vos sentiments ne sont que charnels, c'est les sentiments de l'esprit, puis il y a les sentiments de l'âme. Si vos sentiments ne sont que charnels, votre âme suivra tout ce qui est charnel. Voire même tout ce qui est diabolique. Tout en croyant suivre le Saint-Esprit, c'est ça l'aveuglement, vous voyez? C'est ça l'aveuglement. Mais c'est votre faute, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute des démons. C'est vous. Parce que c'est vous le gardien. Toutes les choses importantes se sont passées dans un jardin. La première fois, c'était dans le jardin d'Éden, avec le premier Adam. La deuxième fois, c'était dans le jardin de Gethsémané avec le deuxième Adam, Jésus. Et la troisième fois, c'était dans le jardin de votre esprit. Maintenant, c'est dans votre jardin à vous que ça se passe. Vous êtes les gardiens, votre âme est gardienne de ce jardin. En Éden, Adam a perdu parce qu'il a mal gardé, il n'a pas fait son boulot. À Gethsémané, Jésus a vaincu. Et dans notre esprit, nous pouvons perdre ou vaincre l'ennemi de nos âmes, les gens toxiques, les situations bloquées, la maladie, en fait tout ce qui a trait au vieux serpent. Nous pouvons gagner ou perdre, ça dépend ce que nous voulons. Ça dépend ce que nous voulons. Les gens n'aiment plus la vérité, ils se racontent des fables, ils se racontent des fables. Ils aiment ça. Ben, s'ils aiment ça, ben c'est ça qu'ils auront, quoi. Adam avait reçu l'ordre de garder le jardin, nous avons aussi reçu cet ordre. 1 Jean 5, 18. Je vous le lis, c'est très important. 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si Nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, prenez garde, gardez-vous des idoles. Pas d'autre Dieu, seulement Jésus. Celui qui se garde lui-même, le mauvais ne le touche pas. Ne priez pas pour que Dieu vous garde. La Bible dit que vous devez vous garder vous-même. Quand vous priez, « Oh mon Dieu, garde-moi », c'est une prière charnelle. Bien sûr, Dieu nous aide quand nous nous gardons nous-mêmes. Là, il vient à notre aide aussi. Mais si vous ne vous gardez pas vous-même, Dieu ne vous garde pas. Et toc, non mais il ne faut pas exagérer. Mais si vous ne vous gardez pas, rappelez-vous d'une chose, il n'est pas tenu de le faire. Si vous faites du 140 sur l'autoroute alors que c'est écrit 110, Dieu n'est pas tenu de vous protéger. Si nous laissons entrer n'importe quelle idée dans notre esprit, vous voyez comment sont ceux qui nous ont laissé... comment ils sont? Les médisances entre eux, c'est tout. C'est ça qui a fait tout. 2 ans avant, dit-il, ma femme disait les prophéties que je dis aujourd'hui. Il ne le dit pas seulement, il l'écrit. Moi, j'en sais rien, c'est d'autres qui viennent me rapporter qu'il le dit. C'est des médisances. Ça papotait entre les portes, ça se plaignait, ça murmurait sans cesse. Et ils ont écouté, ils se sont écoutés les uns les autres, ils ont gavé leur esprit avec ce poison. Ils ont fini par mal tourner, à devenir rétrograde, et ils sont sur leur déclin. Tout ça parce qu'ils ont écouté le serpent ancien leur raconter des histoires plus ou moins vraies, parce qu'il y avait du vrai dans ce qu'ils disaient, dans leurs murmures et dans leurs plaintes. Mais ça servait à quoi d'en parler entre eux? Il fallait venir m'en parler à moi. Quand le diable a dit à Ève: mais Dieu sait très bien que si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. Dieu dit ensuite, ah ben maintenant ils sont comme moi, au sujet de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils en mangent, il avait sa raison, il les mettait là à l'épreuve. Et le diable n'a pas menti, il a dit juste une demi-vérité. Il a poussé les gens à désobéir, à se révolter contre Dieu. Alors, il se raconte des histoires entre les portes qui sont plus ou moins vraies, comme ils ont fait dans le jardin d'Éden. Ève, c'est elle qui a commencé, hein, elle a écouté, et puis ensuite Adam, gros balourd, il a suivi. Ève aurait dû dire stop au serpent tout de suite quand il a commencé à dire « Oui, mais est-ce que vraiment, gna gna gna, la 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 ?» Appelons le responsable du jardin. Elle aurait dû dire, appelons le responsable du jardin. Dieu, appelons le créateur du jardin. Appelons Dieu. Quand quelqu'un médisait entre les portes, racontait des histoires, quelqu'un de sensé et de spirituel aurait dû dire, stop, appelons Michel et Michou, les responsables, les créateurs de la communauté. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont continué à se gaver, à s'empoisonner de mauvaises choses. Et ils se sont mis à se plaindre de plus en plus mutuellement. Ah, voilà. Et maintenant, ils sont où? Dans quel état? Ben, une misère. Mais ils n'en sont même pas conscients. Ils n'en sont même pas conscients. Et sont toujours, excusez-moi les sœurs, mais ce sont toujours les femmes qui commencent. C'est toujours les bonnes femmes qui commencent. Le monde a tellement bien compris ça qu'ils ont pondu un proverbe qui dit « Cherchez la femme ». C'est terrible, mais c'est pas faux. Et ce gros balourd de Adam a suivi sa bonne femme. Il a suivi. Et voilà. Et ces pauvres chrétiens, ils suivent leur bonne femme qui murmure, qui se plaignent, qui rouspètent, qui médisent. C'est des engeances du diable. Voilà ce qu'elles sont. Elles ont besoin d'aller sur leurs genoux, se repentir. Mais elles ne le feront pas. Elles ne le feront pas. Je vous dis, elles ne le feront pas. Messieurs, faites-les taire. quand elle commence comme ça. Faites-les taire. Dites, on va aller voir le responsable du jardin. On va aller voir le créateur du jardin. Une femme peut être une aide merveilleuse pour son mari, j'en sais quelque chose. Je sais ça, personnellement dans mon couple. Mais elle peut aussi être sa pierre d'achoppement, la pire de ses ennemis. Mes frères et sœurs, faites attention. Ne dites pas c'est ma femme qui me l'a dit et c'est la sœur un tel qui me l'a dit. Non, non, non. Garde-toi toi-même. Celui qui se garde lui-même, le diable, le mauvais, ne le touche pas. Et puis tu as le devoir de protéger ta femme, de lui dire tais-toi. L'autre là-bas, il n'a pas dit à sa femme tais-toi. Il a ouvert ses yeux tout ronds, il a ouvert sa bouche toute ronde et puis il a tout gobé. Puis ça a mis 2, 3 ans à mûrir, puis quand c'est sorti, ben vous avez vu ce que ça a donné. C'est le rôle du mari de protéger sa femme, ce n'est pas le rôle du pasteur. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, 14, non, 1 Corinthiens 11, 3. Je vous le lis. Je vous le lis. 14, 3. Où est-ce que c'est ça, 14-3? Oui, c'est 15, c'est pas 14-3. Alors, où est-ce qu'il est ce verset? Non, il n'est pas là. 1 Corinthiens 11. Ah oui, mais voilà, je suis dans 14. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux, c'est Paul qui dit, cependant, que vous sachiez ceci, je veux que vous sachiez ceci, je veux. C'est Paul qui dit, je veux que vous sachiez cela. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Il y a une hiérarchie. C'est comme ça. Alors arrêtez de murmurer, arrêtez de dire que Paul était un misogyne. Vous êtes des disciples ou vous ne l'êtes pas. C'est dans la parole de Dieu ou ça n'est pas dans la parole de Dieu. Si c'est dans la parole de Dieu, vous devez vous y soumettre. Vous devez le croire et vous devez vivre en conséquence. Vous obéissez ou vous vous rebellez. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas être un chrétien modéré. Comme par exemple, vous ne pouvez pas être un islamiste modéré, ça n'existe pas. On est islamiste ou pas. Et un islamiste, c'est quelqu'un qui obéit totalement au Coran. Et le Coran dit que les chrétiens et les juifs sont des chiens, et ils sont des infidèles, et qu'il faut les poursuivre partout et les massacrer. Voilà pourquoi je ne marche pas avec l'islam. Je ne peux pas avoir un maître comme ça. Je choisis Jésus comme maître. Mais c'est un maître et il faut l'obéir aussi. Si on n'obéit pas, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. D'accord? Il n'y a pas de chrétiens modérés. Il y a des chrétiens tièdes. Ça, oui. Ça, il y a des chrétiens tièdes. Mais il n'y a pas de chrétiens modérés. Ça n'existe pas. Celui qui est tiède, Dieu dit carrément, clairement, je te vomirai de ma bouche. Donc voilà, c'est ainsi que l'Église rétablie dans la vérité fonctionne. Elle ne fonctionne pas autrement. Elle fonctionne comme ça, avec des gens qui croient ça et qui comprennent bien ça, ce que je vous ai enseigné ce soir, et qui le mettent en pratique. Et c'est comme ça que nous voulons vivre. Si vous ne voulez pas vivre ça, je vous supplie, ne perdez pas votre temps, partez tout de suite. Partez tout de suite, il y a des tas d'églises où on va vous flatter, où on va vous accueillir à bras ouverts. Ah, c'est formidable, vous avez quitté ce gourou de janton, mais quel bonheur, alléluia, et tout ça. Vous allez être vraiment bien pendant quelques mois, puis après vous allez comprendre votre douleur. Je le sais parce que j'ai vécu dans ces églises pendant tant d'années, je les connais. Je peux pas. Si Dieu dit, je les vomirai de ma bouche, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Je les connais. Alors, n'oubliez pas, vous êtes le seul gardien de votre jardin intérieur. Alors, et vous les femmes, vous avez votre mari pour vous protéger. Si vous vous gardez mal, acceptez l'autorité de votre mari. Maintenant, vous, les maris, si vous marchez mal, votre femme, elle a aussi quelque chose à vous dire. Hein. Elle a aussi, elle peut aussi vous reprendre, ça c'est sûr. Mais dans l'ordre établi, normalement, c'est d'abord l'homme. La femme, elle est tellement sensible, elle est tellement plus intuitive que nous, qu'elle est, c'est vrai, à l'écoute des choses de l'esprit, mais attention, quel esprit? C'est ça le problème. Ève, Satan n'est pas allé vers Adam parce qu'il savait très bien que Ève était plus tendre. Femme, c'est beaucoup plus tendre, un cœur plus tendre. Alors elle peut se laisser rouler. L'homme, je ne sais pas s'il aurait réussi à le rouler comme ça si facilement. D'ailleurs,
Il aurait pas entendu.
il aurait. Non, pas écouté. Tandis qu'Ève, voilà, s'est laissée embobiner. Et il y a beaucoup de femmes qui se laissent embobiner par des gens incroyables, incroyables. Alors faites attention, prenez garde. Restez fidèles à ce qui est écrit. Et à l'esprit de Jésus, laissez l'esprit de Jésus influencer votre esprit. Ce n'est que par votre esprit que vous pouvez rentrer en contact avec l'esprit de Dieu. C'est faux de penser qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu en ayant toutes ces émotions et tous ces trucs qu'on voit dans les églises, ces gens qui tremblent, qui se secouent, qui se roulent par terre, qui sentent des trucs et tout. Moi aussi, je sens des fois des choses, mais je ne fais pas tellement attention à ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de connaître la parole de Dieu, de la mettre en pratique. C'est tout. Quand on la met en pratique, on a l'assurance que Dieu est avec nous et on voit les résultats. Amen. Vous n'êtes pas content d'avoir marché avec Dieu jusqu'à ce jour? Moi, je suis très content, je regrette rien du tout, mais rien du tout. J'ai fait des erreurs, j'ai demandé pardon. Maintenant, s'il y a des gens qui n'y croient pas, tant pis pour eux. Moi, je suis en ordre avec mon Seigneur, j'espère que vous aussi. Et vous qui m'écoutez sur Révélation Bible, j'espère que vous aussi. Amen. Jésus veut nous garder dans ta paix comme nous nous gardons. Garde-nous dans notre façon de nous garder. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans ce travail que nous avons de nous garder nous-mêmes. Merci Jésus. Amen. Bonne fin de soirée et à dimanche. Au revoir.